Le journal Loïc Barrière. Après la mort de 15 manifestants tués mercredi par l'armée à Khartoum, les protestataires soudanais promettent une escalade contre le coup d'état militaire. En Tunisie, plusieurs partis politiques demandent la fin des mesures d'exception prises par le président Saïed l'été dernier. Interview dans ce journal de Ella Ben Youssef, vice-présidente du parti État Katol. La Biélorussie affirme que les migrants massés à la frontière de la Pologne ont été mis à l'abri. Plusieurs centaines d'Irakiens ont par ailleurs été rapatriés. Invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h, le député Sébastien Nadeau affirme que l'État bafoue les droits des personnes migrantes. Il a dirigé une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Enfin, l'Autriche va rendre le vaccin contre le Covid obligatoire le 1er février, une première dans l'Union européenne. Au Soudan, les protestataires appellent à une escalade ouverte contre le coup d'état militaire, un appel lancé après la répression meurtrière de mercredi. Au total, 15 civils ont été tués par l'armée ce jour-là à l'occasion de la répression d'une manifestation. L'ONU demande aux autorités et aux forces de sécurité du Soudan de faire preuve de retenue et de s'abstenir de commettre d'autres violations des droits de l'homme. 50 travailleurs immigrés sont morts et plus de 500 ont été grièvement blessés l'an dernier au Qatar, et ce en plein chantier pour accueillir le Mondial 2022 de football. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale du travail. La plupart des travailleurs migrants sont morts lors de chutes ou d'accidents de la route, en majorité sur leur lieu de travail. La situation politique en Tunisie, plusieurs partis demandent la fin des mesures exceptionnelles prises par le chef de l'État le 25 juillet dernier. Kais Saied a notamment suspendu le Parlement. Entretien avec la vice-présidente du parti État Katol, Ella Ben Youssef.
État Katol aujourd'hui et ses partenaires qui ont engagé une action commune de coordination interparti de la famille social-démocrate. Le 25 juillet, pour nous, était une cause juste de par ce qui s'est passé au sein du Parlement et que ça ne pouvait plus continuer et il fallait arrêter l'hémorragie. Malheureusement, après le discours du 22 septembre et après le décret 177 que Monsieur le Président de la République a annoncé, nous ne pouvons pas accepter et nous ne pouvons pas donner de chèque en blanc à un président qui souhaite diriger le pays avec un plein pouvoir qui est contraire aux institutions de l'État, qui est contraire à la démocratie, contraire à la Constitution, même si cette Constitution est pour lui aujourd'hui caduque, mais il y a des fondements de ce pays, le fondement de la démocratie tunisienne, que nous ne pouvons pas ne pas prendre compte. Aujourd'hui, la rue, elle bouge. Aujourd'hui, il y a des sondages qui sont apparus, qui démontrent, après plus de 100 jours de gouvernance, que la popularité du président, elle commence à prendre un coup. Pourquoi ? Parce que il avait tellement cru en lui et en sa manière d'être que, malheureusement, sans stratégie, sans réelle vision politique, nous ne pouvons pas avancer dans un cadre où le pays souffre économiquement et socialement. Le peuple attend des réformes réelles, des réformes radicales au niveau économique et social pour le bien-être de la population. Et ça toucherait après tous les secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la justice, donc la corruption, qui aujourd'hui, le peuple attend du président que des actions réelles, fortes, puissent être actées.
Cette aujourd'hui, situation, ce gel du Parlement depuis le 25 juillet dernier, a des conséquences aujourd'hui sur le plan économique en Tunisie ?
Tout à fait, a des conséquences sur le plan économique. Au niveau international aujourd'hui, nous savons très bien que nous avons un souci avec le FMI, avec les prêts que le pays a contractés. La roue économique est bloquée et donc nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça devient vraiment très très dangereux. Mais vraiment très dangereux, que nous continuions à travailler en séparation avec la gouvernance et le gouvernement, parce qu'il existe en Tunisie des partis historiques comme Takatel aujourd'hui, qui ont une histoire, qui ont une stratégie, qui ont une vision et qui pourront, avec les autres partis dont on continue à travailler, comme Jumhuri, comme Tayyar et aussi Affaire Tunis, à présenter une réelle stratégie pour s'en sortir, et nous ne pouvons que lui dire Nous devons rappeler le dialogue national et ne pas mettre tous les partis dans le même sac. Nous ne sommes pas NAM, nous ne sommes pas l'ancien régime. Et c'est ces deux entités-là que le président aujourd'hui souhaite anéantir. Nous sommes là, notre histoire et nos actions existent, nos programmes existent. Nous sommes des leaders aujourd'hui aussi honnêtes que Monsieur le Président, les mains propres, mais avec un amour pour notre pays, sans populisme, mais plutôt réel et des actions concrètes pour s'en sortir tous ensemble. Alors oui au dialogue national, oui à la coopération avec le Président, qu'il doit rappeler les gens qui ont une stratégie pour notre pays et pour s'en sortir ensemble. Rester chacun dans son coin n'est pas la bonne solution. Aussi, mettre tous les partis politiques dans le même sac et les considérer tous comme des corrompus et tous comme des malfrats, ce n'est pas la bonne stratégie et ça ne va pas aider à ce qu'on avance vers le bon sens.
Vous êtes engagé, Laban Youssef, en faveur des droits des femmes et de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous faire part des mesures que vous souhaiteriez mettre en lumière aujourd'hui?
Aujourd'hui, la crise économique en Tunisie et surtout après la Covid-19, touche beaucoup la population féminine, touche les femmes en premier lieu. Les PME et les PMI, qui sont des entreprises qui font travailler beaucoup de femmes, souffrent. Réellement, nous avons vu au niveau mondial et donc les conséquences directes aussi chez nous des augmentations des violences faites aux femmes et toutes les violences économiques, morales, physiques ne cessent d'augmenter. Les féminicides aussi ne cessent d'augmenter. Ceci est un impact direct de la difficulté économique et sociale que traverse notre pays, mais aussi que traverse le monde suite à la Covid-19. Donc l'inclusion économique aujourd'hui est un secteur très important qui va aider réellement les femmes à s'en sortir, parce que l'indépendance économique pour moi a toujours été la réelle force pour une femme, pour qu'elle puisse être libre, pour qu'elle puisse investir toute seule dans sa vie et décider de ce qu'elle a envie de réaliser pour elle et pour son entourage et de toute façon pour son pays indirectement, puisqu'elle représente plus de la moitié de la population. Les femmes diplômées, on sait très bien qu'elles dépassent les 60% au niveau du pays, mais malheureusement au niveau du chômage, c'est elles qui en souffrent le plus. Donc au niveau du ministère de la Femme, il y a un projet très important aujourd'hui qui s'appelle RAIDET. J'espère qu'il apportera ses fruits, mais aussi au niveau de la société civile, au niveau de la sensibilisation de la jeunesse, qui pour moi est le premier ambassadeur, garçons et filles aujourd'hui, sont les premiers ambassadeurs pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour changer les mentalités, pour éduquer nos enfants. Et c'est là où il va falloir faire une réelle réforme au niveau éducatif concernant l'égalité homme-femme, concernant la citoyenneté. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'hommes qui portent cette cause, parce que ce n'est que ensemble que nous pourrons vaincre cette pandémie santé et pandémie, pour moi, je l'appelle violence aussi.
La vice-présidente d'État Catholique est la Ben Youssef au micro de François-Xavier de Calonne. Environ 14 700 rebelles ont été tués autour de la ville de Marib depuis juin dernier. C'est ce qu'affirment des sources proches des Houthis. Marib est le dernier bastion loyaliste dans le nord du Yémen. La plupart des rebelles ont été tués par les frappes aériennes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Les migrants bloqués depuis plusieurs jours à la frontière biélorusse ont été relogés dans un centre d'accueil. C'est ce qu'affirment les gardes-frontières biélorusses. Les autorités assurent que ces migrants ont reçu des repas chauds, des vêtements et des produits de première nécessité. Jeudi soir, 431 migrants ont également été rapatriés en Irak, la plupart à Erbil, les autres à Bagdad. Et ces Irakiens espéraient pouvoir entrer en Pologne via la Biélorussie. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, membre du groupe Liberté et Territoire, président de la commission d'enquête sur les migrations de l'Assemblée nationale. Il a publié son rapport et il parle d'une maltraitance d'État vis-à-vis des migrants, extrait de cette émission.
C'est un problème systémique, c'est la conclusion à laquelle j'ai pu arriver. Le fait est que La France bafoue l'état de droit concernant le droit auquel peut prétendre un étranger quand il est sur le territoire national. Et si j'estime que c'est un problème systémique, c'est parce que quand on regarde les questions d'hébergement, on se dit il y a un problème. Régulièrement, quand il y a des évacuations de squats ou de camps, ce qui est appelé mise à l'abri n'en est pas une. Et quand on veut appeler le 115 à ce moment-là, qui est le service d'hébergement de l'urgence, parfois on n'a pas de réponse, et puis parfois on a une réponse au bout de la ligne qui nous dit que il n'y aura pas de solution pour ces personnes. Donc quand on regarde du côté de l'hébergement, on se dit il y a problème. Alors si c'était seulement l'hébergement, on pourrait se dire il y a un problème au niveau français global sur le logement. Donc qu'il y ait des répercussions sur les migrants, c'est somme toute que logique. Mais quand on va regarder sur l'accès à la santé, par exemple, là encore, il y a une mise à l'index, une mise à l'écart des populations migrantes. Et le cas qui peut-être est le plus évocateur, il existe en France, c'est le droit et rien que le droit, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui est adressé aux personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Donc pour ces personnes-là, on considère en France, et c'est fort juste, qu'ils doivent pouvoir accéder au système de santé, particulièrement quand ils ont des besoins assez évidents et urgents. Et on a pu constater que un certain nombre de caisses primaires d'assurance maladie sur le territoire national mettaient beaucoup d'obstacles, et des obstacles qui ne sont pas du tout réglementaires, qui sont contraires à la manière dont ils devraient procéder, pour délivrer cette aide médicale d'État. Là aussi, on s'est aperçu que finalement, quand on est en situation irrégulière, eh ben on n'a pas le droit d'avoir une rage de dents. Donc on s'est dit, bon, hébergement plus accès aux soins, c'est quelque chose qui questionne. Et puis on continue le cheminement. L'accès à l'administration. Eh bien, quand on veut demander l'asile, demander un titre de séjour, qui sont deux choses différentes, hein. On peut demander un titre de séjour au titre de l'asile, mais il y a bien d'autres cas de figure qui peuvent se proposer, s'offrir aux personnes étrangères. Une grande majorité des personnes étrangères ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous, simplement un rendez-vous pour enclencher une procédure de demande de titre de séjour. On en est là, tout le monde s'est caché derrière le numérique, mais en réalité, le numérique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de rendez-vous qu'on ne peut pas prendre parce que le serveur de la préfecture, ça va être en Loire, ça va être en Haute-Garonne, ça va être dans la Saône, dans toutes sortes de départements, on a fait le constat qu'on ne peut pas prendre de rendez-vous en numérique. Et il a échappé à personne que la plupart des accès à des guichets humains ne sont plus possibles non plus. Donc l'accès à l'administration, ça a l'air de rien, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'on peut vivre normalement, correctement, dans un pays comme le nôtre. Et puis on continue, on peut dérouler, il y a l'accès à la justice, alors là c'est peut-être le pompon, je dirais, parce que tout ce qui concerne la justice vis-à-vis du droit des étrangers est dans une situation d'embolie complète, que ce soit les tribunaux administratifs pour des demandes de titre de séjour ou des recours, et que ce soit la Cour nationale du droit d'asile, où on peut se retrouver avec cette situation où il faut finalement étudier plus d'une dizaine de dossiers en 4 heures de temps pour des magistrats qui n'ont pas toujours pris connaissance par avance des dossiers.
Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, membre du groupe Liberté et Territoire, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. L'Autriche va rendre la vaccination contre le Covid obligatoire à partir du 1er février, une première dans l'Union européenne. Le chancelier Alexander Schallenberg a aussi annoncé un confinement de la population dès lundi, y compris des personnes vaccinées. Ils étaient fermés depuis la fin de l'été. Des vaccinodromes vont rouvrir en France. Objectif, faciliter la dose de rappel, une troisième injection de vaccin contre le Covid qui concerne aujourd'hui les plus de 65 ans et les plus de 50 ans à partir du 1er décembre. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi relatif aux harkis, ces supplétifs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ce texte vise à demander pardon à ces harkis qui n'ont pas été traités dignement par l'État. La loi va tenter de réparer aussi les préjudices subis par les harkis et leurs familles avec une indemnisation. Le procès en appel de l'auteur d'une agression raciste à Dole, la peine a été réduite pour l'agresseur, âgé de 72 ans. Il a été condamné par la cour d'appel de Besançon à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il avait tenté d'écraser un père de famille qu'il avait auparavant traité de sale bicot. En première instance, cet homme avait écopé de 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Enfin, au Maroc, des archéologues ont découvert des parures vieilles de 142 000 à 150 000 ans. Elles sont de ce fait considérées comme les plus anciennes au monde. Cette découverte a eu lieu près d'Essaouira. Il s'agit de plusieurs colliers et bracelets formés de petits coquillages percés et colorés à l'ocre rouge. Ils ont été trouvés il y a quelques semaines dans la grotte de Bizmoun. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.